franceinter.fr.
Je peux compter sur les doigts d'une main les personnes qui ont changé mon destin. Bernard Chérèze, ancien directeur de la programmation musicale de France Inter, décédé mercredi, en fait partie. Il m'a donné une chance inouïe, il m'a embauché en 2002 sur France Inter après une courte rencontre. De la même manière qu'il programmait une jeune artiste sur la chaîne, il faisait confiance à son intuition. Nous sommes nombreux aujourd'hui à lui dire merci. Bernard était véritablement un homme de radio, mais ce sont les artistes qu'il adorait le plus. Ce soir, en hommage à Bernard, je propose de réécouter une pop, etc. réalisée dans la deuxième saison. C'était à l'occasion de la sortie de la discographie de Pink Floyd remasterisée. Pink Floyd, groupe si cher à Bernard Chérèze. C'était le 1er octobre 2011. Très bonne soirée.
Pop, etc. Avec Valley sur France Inter.
Bonsoir et merci d'être avec nous dans Pop, etc. Leur répétition s'est faite en studio et sur scène, une répétition qui résonne encore aujourd'hui. Ils ont changé la donne discographique en termes de format, technique et composition, ouvrant un peu plus grand les portes de la perception de plus de 200 millions de personnes. 200 millions, c'est le nombre d'albums vendus depuis 1967. Je pense que vous avez bien compris que je parle de Pink Floyd. Et pour marquer le coup de leurs 14 albums studio remasterisés qui sont sortis cette semaine chez EMI, j'ai choisi de parler de quatre d'entre eux. The Piper at the Gates of Dawn, sorti en 1967. Medal, sorti en 1971. The Dark Side of the Moon, sorti en 1973. Et Wish You Were Here, sorti en 1975. Mes invités sont Laurent Maganas, éditeur, producteur et manager indépendant, et Bernard Chérèze, directeur de la programmation musicale sur France Inter. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Vous avez la banane, tous les deux.
Un peu, mon Dieu.
Les oreilles grandes ouvertes. Alors, Bernard Chérèze, pourquoi Pink Floyd vous passionne-t-il autant?
Parce qu'ils ont tout simplement changé ma vie, franchement.
Seulement.
Ouais, seulement. Donc je leur dois tout, notamment d'être là aujourd'hui, par exemple, des choses comme ça. Parce que j'ai un frère qui est plus âgé que moi, qui est allé à Londres en 70. Et comme cadeau, moi j'avais, pour rien vous cacher, pile poil 11 ans, il m'a ramené des Floyd. Et voilà, ça a été un truc sans retour.
La révélation.
Absolument.
Musicale. Laurent?
Un petit peu comme Bernard, hein. Une fois qu'on est tombé dedans, c'est assez terrible. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est un souvenir très précis. J'étais en vacances de ski avec mes parents et ma sœur était plus âgée que moi. Et elle avait des copains qui se sont mis à mettre Shine On You Crazy Diamonds. Et voilà. Et depuis, ben, ça a été vraiment un flash. C'était vraiment une musique que je n'avais jamais entendue avant. Et...
C'est un extrait de Wish You Were Here dont on va parler ce soir, sorti en 1975.
Ouais, ça a été le premier, ma rencontre avec eux. Quoi. Et depuis, ben, voilà, j'ai tout écouté et tout appris.
Alors ce soir, vous êtes sur le Salette, on va tester vos connaissances. Non, on va s'amuser, on va écouter, on va se faire plaisir. Si Emily Play était le deuxième single du groupe, en attendant le premier album, The Piper at the Gates of Dawn, signé sur EMI, dedans, il y a, je crois, à manger et à boire. Pink Floyd dans Pop, etc. Très bonne soirée.
Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow.
Try it another way. You'll lose your mind and play. on a gown that touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily.
Si Emily Play, Pink Floyd en 1967, on parle de quatre de leurs albums ce soir avec deux fans qui s'y connaissent, Bernard Cherez et Laurent Manganas.
Pop, etc.
Alors, il faut commencer par le début, quand même. Les Pink Floyd sont nés dans deux villes différentes. Je veux dire, le groupe, bien sûr, je parle. Une moitié à Londres, l'autre moitié à Cambridge. Ils se sont rencontrés au lycée ou à l'école polytechnique en architecture. Donc, on peut dire, Bernard Cherez, que ça vient plutôt de la classe moyenne, les quatre membres.
Oui, puis plutôt étudiant versus intello, quand même, il faut bien le dire.
Alors, au départ, les membres de Pink Floyd, ceux qui allaient devenir les Pink Floyd, sont fans de blues, d'où leur nom, Laurent Manganas.
Alors, leur nom, c'est toujours quand même une énigme. Hein. Au tout début, quand on ne sait pas, on dit les Flamants Roses, mais ça n'a jamais été ça, de toute façon. Après, sur leur nom, je ne suis pas un spécialiste. Ça a été a priori la jonction de deux bluesmen, voilà, qui étaient un peu leur idole. Mais c'est pas, enfin, c'est sûr ou pas ça?
Pink Anderson et Floyd Council.
Non, ça, moi, j'ai eu la chance de parler plusieurs fois avec David Gilmour. Il m'a confirmé cette anecdote. Donc c'est assez vrai.
Tiens.
Ça, c'est vrai.
D'accord. Alors le premier groupe était assez estonien. Ça s'appelait Sigma 6. Et c'était vraiment un groupe qui jouait de rhythm and blues, comme était populaire à l'époque en Angleterre, à Londres.
Comme les Stones d'ailleurs.
Oui.
C'était dans le blues, oui, c'est normal. Et puis ensuite, il y a eu vraiment l'influence très vite de Syd Barrett, non pas Syd, comme je dis parfois, qui lui a amené toute cette petite folie qu'on vient d'entendre là, dans Si Emily Play, qui est le folk, on va dire, baroque et barré. Et ce qu'il y avait, c'est vraiment l'exemple même de Si Emily Play, de l'autre single de l'époque qui s'appelait Arnold Lane, où Floyd faisait encore des chansons très courtes. C'était vraiment de l'ordre du petit single de 3 minutes, quelque chose qu'ils vont abandonner assez vite, justement, au départ de Syd Barrett.
Mais ce qui est assez marrant, Laurent, c'est que déjà dans ces formats assez courts, c'était déjà très riche. C'est-à-dire que il y avait des breaks, des passages, des solos, il y avait déjà une volonté de casser un petit peu le rythme sur la chanson qu'on vient d'entendre, des passages instrumentaux, même assez courts, mais il y avait déjà cette construction déjà un petit peu déstructurée.
Et beaucoup de richesses qui ont influencé beaucoup de musiciens derrière. Je pense à Bowie, qui d'ailleurs a repris Si Emily Play sur son album Pin-Ups.
Ouais.
Et il a dit lui-même, c'est des choses que le premier album de Floyd a vraiment nourri le début de carrière de David Bowie.
Ouais, ouais, tout à fait.
Et puis ça sort une année incroyable qui est 1967. Je ne vous dis même pas le nombre d'albums qui sont sortis cette année-là. Bon, c'est The Summer of Love aux États-Unis, à San Francisco. À Londres, c'est les Swinging 60s. On est en pleine boom psychédélique. Moi, cette chanson me rappelle beaucoup les Doors aussi, parce qu'il y a cette
fameuse orgue
qui rappelle. C'est quand même une année juste incroyable.
Mais
dans la musique.
Comment ne pas penser aussi à Procol Harum, à des groupes comme ça qui...
Il y avait Forever Changes, The Love, Mr. Fantasy, The Traffic, Disraeli Gears, The Cream, il y a Velvet avec Nico.
C'est aussi l'année de ma naissance.
Ah bon ?
Ouais.
Ah ben j'apprends des choses
comme
aujourd'hui.
Quoi, c'est peut-être un signe.
Alors, c'est aussi l'année, on n'a pas dit, hein, de Sgt. Pepper's.
C'est vrai.
Et c'était même enregistré dans le même studio, c'est-à-dire studio EMI, qu'on appelle plus familièrement Abbey Road Studios. Alors, c'était rempli de machines, d'instruments, et une mine d'instruments qui a beaucoup influencé le groupe. Écoutons les impressions de Nick Mason, batteur du groupe, sur EMI Studios, qu'on appelait après Abbey Road.
There was a strangely old-fashioned air to EMI as well.
Il y avait à l'époque avec EMI, il y avait quelque chose de très vieux jeu.
Studio, but to some extent, the Beatles were responsible for bringing
l'ancien studio des Beatles, mais ils avaient réussi à, les Beatles avaient réussi à peut-être apporter un standard et une qualité et une modernité au studio qui était assez unique. Mais il restait encore ce petit côté vieux jeu, un peu BBC. C'était en fait en quelque chose une vieille dame, une institution, avec tout ce qu'il y a de plus avancé en technologie.
Alors c'était Nick Mason, le batteur du groupe, qui parle de la première fois qu'il rentre dans EMI Studios, il trouve cet endroit incroyable. Et il faut juste ajouter que les Beatles enregistraient Sgt. Pepper's au même moment que The Piper at the Gates of Dawn, et les Floyd ont enregistré avec Norman Smith, qui était l'ingé son ou l'assistant de George Martin. Donc imaginez l'ambiance en 1967 à Abbey Road, quoi.
Il s'y passait des choses.
C'est sûr que. Mais ce qui est amusant, c'est que il y a un bouquin. Enfin, j'ai une toute petite digression sur les Beatles, mais un bouquin de Geoff Emery qui raconte tout l'enregistrement qu'il faisait avec les Beatles. C'est vrai que on imagine Abbey Road comme un studio formidable, mais c'était un studio ringard à l'époque. Et les Beatles sont vachement aider à le faire progresser. C'est-à-dire qu'au début, les ingénieurs étaient en blouse grise, ils n'avaient pas le droit de s'habiller. Enfin, c'était assez dingue. Et bon, déjà, là, en 67, ça commençait déjà à être un tout petit peu plus funky, mais c'était beaucoup plus sympa d'aller à Olympique ou à Air Studio, qui étaient des studios beaucoup plus rock, quoi.
Air Studio, qui était le studio de George Martin. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit les photos de l'époque, on voit George Martin avec une cravate et tout, mais il a toujours été comme ça,
c'était
de toute façon.
C'était obligatoire. C'était obligatoire. Vous n'aviez pas la cravate, vous faisiez virer. Hein.
Alors, Syd Barrett, évidemment, l'ingénieur fou, l'architecte fou, on va dire, de Pink Floyd à l'époque. Alors, le groupe se produisait dans plein de salles, un peu. Ça faisait partie de l'underground londonien.
Absolument, dans les collèges aussi. Ils se tournaient beaucoup pour des petits sets d'une demi-heure, d'ailleurs, où ils faisaient aussi beaucoup d'expérimentations sonores.
Beaucoup de coplateaux aussi.
Ils étaient très inventifs et chaque soir était une nouvelle aventure, quelque part. Quoi.
Alors, ils en produisaient dans l'église, des All Saints Église, the UFO Club, Marquis Club, the Roundhouse, avec une projection de diapo comme on faisait à New York avec tous les groupes psychédéliques de l'époque.
Ouais, ça a été vraiment dès qu'ils sont montés sur scène, comme disait Bernard, même dans des tout petits clubs, dès ce moment-là, il y avait des projections, il y avait des diapos, il y avait de la musique très forte. Et d'ailleurs, ils ont des souvenirs comme quoi ils se cramaient avec les projecteurs qui étaient trop forts. Enfin, c'était très très mal réglé à l'époque, quoi. C'était vraiment du matériel quasiment amateur. Et souvent, ça se finissait avec des cheveux brûlés ou des genoux cramés, quoi. Donc, ça devait être assez marrant. Ouais.
Et jouait principalement The Pipers at the Gates of Dawn, sur lequel vous avez dit, il change le format des pop songs commence à changer. Et il y a même Interstellar Overdrive, qui est un peu les prémices de ce qui allait arriver plus tard, avec une chanson. Cette chanson-là dure quand même 10 minutes.
Alors pour moi, cette chanson-là est le premier maillon qui va donner au Magouma par la suite, quoi.
Exactement. Alors, Syd Barrett quitte le groupe en 1968, remplacé par David Gilmour. Meddle sort en 71 avec en ouverture One of These Days, néanmoins un classique.
Thank you.
One of these days, Mixia Air Studio sur Oxford Street, bien sûr, le fameux studio monté par le producteur des Beatles, George Martin. Bernard Chérèze, tout à l'heure, on parlait du fait qu'en 1967, quand même, The Pipers at the Gates of Dawn est sorti au même moment que Sgt. Pepper's sur le même label, c'est-à-dire EMI. Et beaucoup de gens disent aujourd'hui que c'est aussi important que Sgt. Pepper's, mais je pense que les Beatles ont peut-être écrasé les Pink Floyd à cette époque-là. Ou est-ce que c'était perçu très vite, le premier album ?
Non, alors d'abord, je reviens juste sur ce titre, si vous permettez, Valérie, pour dire que moi, c'est un chef-d'œuvre, d'abord, celui-ci, pour plusieurs raisons, parce qu'il a un son exceptionnel. Il faut se resituer ça dans l'époque, en 71. Le son qu'on vient d'entendre, c'est pas le remastering, là, on est vraiment dans le son de l'époque, c'est dément. Le vent, par exemple, a été bidouillé avec des générateurs, c'est vraiment des dingues. Il y a une double ligne de basse comme on n'a jamais entendu. Et puis, il y a un truc aussi à signaler, c'est que c'est le morceau qui met en avant l'homme de l'ombre de Pink Floyd, à savoir Richard Wright, pour moi, qui fait un travail au clavier et au son et aux arrangements exceptionnels. Et vraiment, sur cet album Medal et sur ce titre-là, on prend la mesure de ce qu'a été, je dis parce que malheureusement il est décédé, de ce qu'a été Richard Wright au sein de l'importance de Floyd. Ensuite, par rapport aux Beatles, il faut savoir que les Floyd ont d'abord eu du succès en France, notamment avec cet album Medal qui a commencé
sorti en 71.
Voilà, qui a commencé à faire frémir le succès en France. Après, il y a eu mort. Et c'est ensuite que l'Angleterre s'est plutôt mis à s'intéresser aux Floyd. Donc, ils ont été effectivement assez étouffés. Mais c'était quand même moins, comment dirais-je, l'approche de Pink Floyd est quand même moins facile que celle des Beatles. De mon point de vue, c'est moins populaire.
Oui, ils ne jouaient pas, enfin, tous les cas en 67, ils ne jouaient pas dans la même catégorie, dans la même cour. Hein. Ils ne s'adressaient pas au même public. Hein. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus underground. C'était.
Musique des hippies.
Hein. Musique de hippies, ouais, musique qui était très, très. Tu vois,
qui allait avec une certaine consommation de certaines choses illicites.
Ah bon, voilà, vous croyez?
Non, mais c'était. Non, mais c'est, voilà. Ouais, c'est,
Et justement, Syd Barrett, qui est victime de sa dépendance aux drogues, LSD, entre autres, et puis une certaine folie que ça a entraînée, il quitte le groupe de lui-même pour retourner vivre chez sa mère. Il est remplacé par David Gilmour, un ami, qui apparemment était déjà sur scène pour un peu couvrir, parce que des fois, apparemment, Syd Barrett était sur scène et il est devenu catatonique. Bah, et il ne jouait pas, donc Gilmour était là pour couvrir.
Ça arrivait très vite, en fait. C'est dès 68, ouais. En fait, Syd Barrett a montré des signes de fatigue, voire même plus que de fatigue. Et ils ont appelé donc un ami. Ils ont failli appeler Jeff Beck, d'ailleurs. Ils y ont pensé.
Ils y ont pensé, puis finalement, c'est Gilmour qui a été retenu.
Finalement, ils ont appelé Gilmour. Au début, ils ont fait une toute petite période à 5. En fait, ce qu'ils ont voulu faire au début, ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir faire un peu comme Brian Wilson, c'est-à-dire laisser Syd Barrett un peu en compositeur.
Avec les Beach Boys.
Voilà, des Beach Boys et un petit peu en compositeur. Et là, parce que c'est lui, au début, qui créait tout. Hein. C'était Syd Barrett qui écrivait les chansons. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu orphelins. Et puis, finalement, il était tellement parti, tellement perché.
Et dépressif. Et Gilmour, lui, était en France à l'époque, d'ailleurs. Ouais. Traîné du côté de Saint-Tropez. Il a même eu quelques moments délicieux, paraît-il, avec Brigitte Bardot. Il avait de la chance à l'époque.
Ah bon, était beau gosse, il faut dire.
Beau gosse, ouais, c'est vrai. Et puis, il était très, très proche de Syd Barrett. C'est d'ailleurs lui qui lui a aidé à faire ensuite ses albums solo. Donc, il n'y avait pas de dualité entre le remplaçant et le génie qui ne pouvait plus rien faire.
Apparemment, c'est même David Gilmour qui s'est occupé vraiment de loin, Syd Barrett depuis toute sa vie jusqu'à sa mort en 2006. La mort, bien sûr, de Syd Barrett.
Il y a beaucoup de gens qui se sont dit qu'ils ne se sont pas bien comportés avec Barrett, mais ils l'ont suivi tout au long de sa... De loin, hein. C'est-à-dire que je crois même que Waters et Gilmour ont produit ces deux albums en 69.
Baby Limonade,
c'est vraiment ça.
Alors, qu'est-ce que Gilmour a apporté à Pink Floyd ?
Gilmour, il a apporté d'abord un jeu de guitare. Pour moi, c'est quand même l'un des tout meilleurs guitaristes qu'on ait connu dans l'histoire de la rock music, ça c'est sûr. Il a une grande rigueur. Alors, certainement beaucoup moins de folie que n'en avait Syd Barrett, ça c'est clair, mais une grande rigueur musicale et une grande rigueur dans la manière dont le groupe devait se tenir, et notamment scéniquement. Lui, il a amené beaucoup, beaucoup de choses sur scène et il était très exigeant avec la scène. C'est grâce à lui, notamment, qu'ils se sont lancés plus tard dans ces grands shows avec toutes ces innovations technologiques. C'est vraiment l'idée de Gilmour. Il avait presque une idée symphonique du Floyd.
Oui, puis c'était mieux qu'un remplaçant. C'est-à-dire que, déjà, comme dit Bernard, un son de guitare, c'est-à-dire qu'il a un son reconnaissable entre mille. Enfin, comme Santana a son son, chaque guitariste a son son. Comme il a vraiment un son particulier. Et puis il a une voix.
Enfin, une vraie voix.
Il a une voix incroyable. C'est-à-dire qu'il a une voix hyper sensuelle. Il a une voix qui se marie extrêmement bien avec celle de Waters. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un McCartney et un Lennon quand ils chantent ensemble. Il y a une espèce de fusion. Et c'est vrai que Gilmour a une voix hallucinante, quoi.
Alors Roger Waters, au départ, ils n'étaient pas les songwriters parce que c'était quand même Syd Barrett, c'était son groupe, c'est lui qui écrivait tout. Et tout d'un coup, il se trouve, il faut qu'on écrive des chansons. Et je pense qu'il s'est étonné peut-être d'eux-mêmes qu'ils savaient écrire. Et Roger Waters commence à vraiment écrire beaucoup de textes, en tout cas. Comment ça s'est passé, cette transition-là, Bernard ?
Et il a pris la plume, que vous venez de le dire. Et puis, il s'est découvert qu'il aimait ça. Et puis, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire.
On
l'a vite vu, d'ailleurs. Et à partir du moment où il a commencé à écrire des textes qui ont fonctionné, c'est « poussez-vous, je m'y mets ». Donc, il y a vraiment un peu de ça. Et de temps en temps, il concédait à d'autres de pouvoir prendre la plume, mais assez rarement. Par contre, sur la musique, ils arrivaient quand même à travailler, en tous les cas, sur les premiers albums, plutôt à quatre. Et ça, c'est pour ça qu'ils étaient aussi forts, d'ailleurs. Sur l'album Meadows, c'est un album où ça travaillait à quatre. Par la suite, on va voir, on va y venir. Ça, c'est un peu...
C'est un peu délité.
Un peu délité, oui.
Et puis, ils étaient assez méticuleux, en fait, en studio, apparemment.
Ils avaient une particularité, c'est qu'ils jouaient d'abord sur scène avant d'enregistrer leur disque. Par exemple, moi, j'ai vu, si ma mémoire est bonne, en 72 à Dijon, une tournée de Floyd où ils jouaient Eclipse, et ça s'appelait Eclipse. Et en fait, c'était le prémisse de Dark Side of the Moon. Donc, on a pu entendre, au milieu du concert... la plupart des titres de ce qu'allait devenir, deux ans plus tard, le fameux Dark Side of the Moon. Voilà. Ils testaient
les morceaux. Ouais. De toute façon, ils avaient des tournées qui, comme disait Bernard tout à l'heure aussi, ils avaient vraiment des petits clubs tout le temps. Et les albums, en fait, s'étageaient sur une année. Ils venaient trois jours, ils enregistraient, ils repartaient en tournée. Donc c'est vrai qu'ils rodaient les morceaux de cette manière-là. Et c'est vrai qu'ils étaient très, très pointus au niveau du son. Il y a une anecdote sur le One of These Days qu'on a entendu. Waters travaillait avec un écho qui était très précis, qui s'appelait le Binson, je ne sais pas comment ça se dit. Et c'était un effet qui était extrêmement fragile. Et ce qui fait que quand il l'amenait en tournée, le technicien était obligé de tout démonter. Et il le remontait à chaque concert parce qu'on ne pouvait pas le transporter, c'était intransportable. Mais il voulait absolument travailler avec cet écho-là. Donc c'était vraiment ils étaient plus que méticuleux.
Une chambre à ressort, donc peut-être.
Oui, c'était ça. Ouais. Et c'était un truc qui ne pouvait pas se transporter. Mais eux, ils le transportaient quand même, ils le démontaient.
Le groupe marchait en Angleterre, mais peinait à percer aux États-Unis. Puis, miracle, une 33 tours à la pochette noire, ornée d'un triangle énigmatique. The Dark Side of the Moon, album enregistré encore au studio Abbey Road par un certain Alan Parsons, casse la baraque et fait des Floyd des superstars. Je vous propose d'écouter Time dans Pop etc.
Thank you.
Time, extrait de The Dark Side of the Moon, album de tous les records et qui lance Pink Floyd pour de bon aux États-Unis. Alors, avant de parler de la musique, il faut absolument qu'on parle de la pochette, la diffraction de la lumière dans un prisme. Elle y rentre blanche et sort en arc-en-ciel. Une simple leçon de physique, mais qu'est-ce que ça a marqué des esprits? Et c'était encore un copain de Cambridge, un certain Storm Thorgerson et son studio Hypnosis. Qui va en parler de cette collaboration, Laurent Manganas?
C'est une collaboration qu'ils ont eue quasiment tout au long de leur carrière, quoi, parce que c'est vrai que c'est Storm qui a fait leur pochette tout au long. Il a réussi à mettre en image la poésie et l'imagination de leur musique, quoi. C'est vrai que les Pink Floyd, c'est le voyage de l'esprit, quoi. Vous écoutez ça, vous vous baladez, et Storm a mis en image, avec des concepts simples, des concepts forts.
Les photos qu'aujourd'hui on peut faire avec Photoshop, à l'époque il les réalisait vraiment.
Il a été photographier les pyramides de Gizeh là-bas, il est parti avec son appareil photo. Enfin, oui, on n'allait pas en photothèque, on y allait, on prenait les photos.
Ou on pense à Animals avec ce fameux Battersea Power Station.
Je pensais à Uma Guma avec cette fenêtre.
Mise en abîme.
Mise en abîme avec le reflet, avec les personnages qui changent de place au fur et à mesure. C'est fabuleux comme
idée. Oui, et puis quand ils mettent en pochette cette photographie avec un cochon rose, la cochon rose vraiment existait et ils ont fait photo
ils l'ont
comme
gonflé, ça a pris
le câble même
trois jours. Le premier jour, le cochon s'est envolé. Je crois qu'il y avait, je sais plus combien, 11 photographes, 8 caméras, un hélicoptère, enfin,
et même un sniper
fou.
Pour tirer dessus au cas où ça partait, parce qu'il pouvait causer, je sais pas, les accidents d'avion, hélicoptère. En tout cas, c'était vraiment un vrai travail. Alors, apparemment, il a proposé beaucoup de projets pour cet album. Ils ont tous branché sur cette fameuse pochette noire, avec évidemment les maisons de disques qui flippent un peu parce que leur nom est nulle part. Donc c'était vraiment un logo qui est marqué pour toujours les esprits.
Ça avait été leur choix de pu apparaître sur les pochettes très très tôt en fait. C'est-à-dire qu'ils sont sur quasiment à partir de cette oreille.
Middle, ils sont à l'intérieur.
Oui, ils sont à l'intérieur, cet intérieur d'oreille, il faut quand même le faire pour sortir un album.
Et puis, il y avait aussi un petit jeu, quand on avait des soirées un petit peu chaudes, c'était de trouver des choses cachées dans des pochettes de Floyd. Non, je n'ai pas au courant, il y avait des choses assez rigolotes. Vous regarderez notamment sur Wish You Were Here, il y a un foulard rouge. Ouais. Quand vous bloquez bien dessus, vous voyez le corps d'une femme nue à l'intérieur. Il y a pas mal de petites...
Ah bon, et les produits illicites, Bernard Chérès, de votre jeunesse?
Pas du tout, j'avais juste...
D'ailleurs, sur Shine, enfin sur So Wish You Were Here, ils ont pas choisi. Ils ont eu 5 projets et ils n'ont pas choisi. Et en fait, dans l'album, vous avez les 5 pochettes. En fait, c'est assez amusant.
Alors, on disait tout à l'heure, l'optique n'était pas les singles. Ils voulaient se concentrer sur les albums. Le format, vraiment, comme souvent, a défini le style. D'ailleurs, on n'a pas dit pour Medal. Il y avait carrément une plage entière qui durait 23 minutes. Mais c'est grâce à un single, Money, que l'album Dark Side of the Moon perce aux États-Unis. On écoute un extrait de la maquette de la chanson. C'est le démo de Money de Roger Waters qui se trouve dans le magnifique coffret Immersion de l'album Dark Side of the Moon. 6 disques dans 2 DVD et 1 Blu-ray. Il y a aussi un jeu, un livret, un album photo, une écharpe. C'est assez extraordinaire comme coffret. Alors on disait, le son était tellement incroyable sur cet album qui était, bien sûr, le prise de son était de Alan Parsons, qu'on testait... cet album sur les chaînes IFI à l'époque.
Les vendeurs de chaînes, oui, ont beaucoup plus de cet album. Oui. Puis il y avait une autre utilisation en France, notamment, c'était on avait du Floyd à l'époque de partout sur les documentaires, les reportages. C'était vraiment la musique de fond était toujours Pink Floyd.
Le prog rock, le space rock, comme on l'appelait.
Et c'est aussi un album important parce que c'est l'un des albums les plus aboutis de ce qu'on peut appeler le concept album, vraiment. Et ça a joué beaucoup dans l'histoire de la musique parce qu'il y a eu des groupes, je pense à Genesis, avec Peter Gabriel, qui eux aussi, et d'autres, Yes, qui ont fait des albums. concept, mais celui-ci était vraiment le plus abouti dans le sens, c'était vraiment il y avait une véritable histoire. Il n'y a pas le thème qui sont traités, il y a le temps qui passe, la vieillesse avec
c'est ça, vraiment dark. Hein.
Voilà, ouais. Il y a la folie avec Brain Damage, il y a beaucoup de choses. Il y a Monet qui dénonce évidemment l'appât du gain et aussi le showbiz. Ils y reviendront plus tard d'ailleurs sur cette notion là. Mais l'album se tient de bout à bout, même si les chansons s'enchaînent les unes les autres. On passe de climat et de rythme très différents, de sujets très différents, et c'est un tout. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le concept album réussi.
Est-ce que c'est aussi la conjugaison, excusez-moi Laurent, de tout ce qui était Pink Floyd en fait? C'était vraiment avec les chansons, comme les mélodies sont magnifiques, on vient d'entendre avec cette version épurée de Monet.
Oui, ils avaient un sens de l'espace, un sens de l'orchestration, ils avaient un sens de l'utilisation des instruments même qui était assez dingue. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que dit Bernard, je dirais que c'est le premier album où on voit vraiment l'empreinte de Waters en termes de concepteur et de parolier. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toutes ces névroses...
Il a écrit tous les textes.
Toutes ces névroses sont là dans cet album et ils en ont fait quelque chose effectivement d'extrêmement construit, de très conceptuel. Et voilà, toutes les difficultés de la société sont dans cet album.
Et d'ailleurs, Time, pardon Valérie, qu'on vient d'écouter, c'est le seul titre qu'ils aient fait à quatre sur cet album.
Ouais.
Et enregistré aussi à EMI Studios, Abbey Road, sur 16 pistes. Donc, je pense que ça avait à voir aussi dans la construction et la composition de cet album. Cette histoire, c'était les derniers cris en termes techniques. Il y avait des choses qui traînaient partout dans le studio. Ils prenaient des choses, d'entendre les sons.
Il faut rendre à Chris Thomas ce qui appartient à Chris Thomas. C'est-à-dire qu'Alan Parsons est parti au milieu de l'album, en fait, pour son propre projet de Alan Parsons Project. Et il a été remplacé par Chris Thomas, qui est quand même l'ingénieur, pareil, d'Abbey Road Maison, qui avait fait l'album blanc des Beatles. Et c'est lui qui a terminé l'enregistrement et qui a mixé l'album, d'ailleurs. Alan Parsons ne l'a mixé qu'en quadriphonie, a priori.
Alors, bien sûr, ils étaient attendus au tournant après le succès de Dark Side. Et ils ont enregistré un album qu'ils ont apparemment mis à la poubelle. Ils sortent Wish You Were Here en septembre 1975, dédié au grand absent, Syd Barrett. Je propose d'écouter le titre éponyme « On aurait aimé que tu sois là », chanson qui sent le cœur de la nuit.
Pop, etc. avec Valie sur France Inter.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Walk on part in the wall for a leap.
wish you were here.
Wish You Were Here dans Pop, etc. Le coffret double CD de cet album sortira en novembre. Il faut dire que sa sortie est enregistrée en 1975 et Syd Barrett est apparu dans le studio pendant l'enregistrement. Il avait une tête de crâne d'œuf avec les grands yeux ronds.
Ils ne l'ont pas reconnu. Ouais.
Ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est des dernières fois que les membres du groupe l'ont vu. Il est mort 30 ans après. Donc c'est assez poignant cette histoire. Ce n'était pas une émission exhaustive sur Pink Floyd. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y avait beaucoup d'influence aussi sur la scène électro. Même, ils étaient les premiers vraiment à...
Ils étaient extrêmement novateurs d'un point de vue technologique déjà. Donc c'est vrai qu'ensuite, en termes de... la technologie ne fait pas la composition, mais on produit différemment quand la technologie évolue. Et ça, c'est vrai qu'ils ont ouvert des portes dont se sont engouffrés d'autres formations et artistes. Je pense à des Allemands comme Kraftwerk, qui a un vrai lien avec ce qu'a fait Floyd. Mmh. Et puis on peut aller jusqu'à la techno d'aujourd'hui, la plus aboutie, la plus novatrice à nouveau. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un chemin, effectivement. Pour moi, ce que je voudrais dire, juste pour terminer, c'est que cet album, c'est pour moi Wish You Were Here, avec The Wall, qui est pour le coup la construction finale de Roger Waters, c'est la fin du Floyd, parce que tout ce qu'il y a après, certes, ça s'écoute, ça reste intéressant, mais on est très en deçà de la magie sur laquelle on a voyagé depuis le début de cette émission. Quoi.
Laurent Manganas, mot de la fin.
C'est exactement ça. On peut dire qu'en 75, c'est la fin des Floyd, c'est-à-dire que... Voilà, en fait, on peut se dire qu'un groupe de cette importance a une pérennité généralement de 8-9 ans. Vous regardez un petit peu dans l'histoire du rock, les Beatles, 9 ans, les Floyd, 9 ans. Après, effectivement, c'est une autre histoire, on va dire.
Il n'y a pas un album qui sort même aujourd'hui où on ne fait pas référence, j'ai l'impression, à Pink Floyd.
Ils ont eu du mal, pardon, parce qu'ils ont été très critiqués, parce qu'ils ont représenté quelque chose qu'il fallait rejeter, à savoir le succès, la gloire, l'argent, quoi qu'ils fassent, ça marchait. Des tournées monstrueuses. Je me souviens d'une tournée qui avait été sponsorisée par une marque de soda. Après, il y a eu une marque de voiture allemande. Enfin, tout a été fait autour d'eux. Ça a été vraiment. Et puis, il y a eu l'arrivée des punks. C'était l'ennemi juré du mouvement punk. Pink Floyd, c'était tout ce qu'il fallait démonter, finalement.
Oui, cette vicheuse qui portait un t-shirt I hate Pink Floyd, qui après dit voilà. Oh, j'étais un peu con, j'étais jeune.
Voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas fini de grandir dans l'histoire de la musique et qu'ils vont avoir une pérennité beaucoup plus longue qu'on ne le pense.
Merci Laurent Manganas et Bernard Chérès d'être venus ce soir. Les 14 albums studio de Pink Floyd sont disponibles chez EMI. On peut les acheter à l'unité ou dans un coffret. Et puis le coffret The Dark Side of the Moon, édition limitée, dont je vous ai parlé plus tôt, est assez extraordinaire. Il faut le découvrir. C'était la rediffusion de l'émission de Pop, etc. du 1er octobre 2011, réalisée par Xavier Ollard et Maïté Adam avec Rémi Quincet et préparée par Corinne Valente. Pour continuer notre hommage à Bernard Chérès, je propose d'écouter trois artistes qu'il a adorés. On commence par Peter Gabriel. Les fidèles de France Inter se souviennent d'un concert privé du chanteur au studio 104 à France Inter le 5 décembre 2002, organisé par Bernard. Salisbury Hill est un extrait de son premier album solo, sorti en 1977. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. My heart goes. Gabriel Salisbury Hill, extrait de son album solo sorti en 1977. On continue notre hommage à Bernard Chérèse.
Pop, etc. avec Valérie sur France Inter.
Dis, Birkin, c'est quoi ce vieil accent que tu traînes et qui te rend l'air antipathique?
C'est l'accent britannique.
Marcher dans la gadoue alors que ça salit tes bottes.
C'est que je suis gamine.
Dis, Birkin, pourquoi tu cites, tu sexes et puis tu sonnes dès que le mois d'août sera dîne.
C'est que je suis caline.
Dis, Birkin, c'est quoi ce vieux jean sale que tu trimbales depuis 1969?
C'est que je suis radine. Je m'appelle Jane.
Jane Birkin et Mickey 3D, je m'appelle Jane. Jane Birkin, amie très chère de Bernard Chérèse, Bernard qui nous a quittés cette semaine. Alors pour terminer l'hommage, l'idole absolue de Bernard, il avait même interviewé quand il était un jeune animateur de radio à Lyon, David Bowie, Life on Mars, une très belle destination.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong.
is there life on Mars? On America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the lawman, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. Is in the best-selling show. Is there life on
David Bowie, Life on Mars, pour clore l'hommage à Bernard Charest, ancien directeur de la programmation musicale de France Inter. Toutes les infos liées à cette émission sont sur notre site, tapez franceinter.fr. Vous pouvez la réécouter en podcast ou par streaming. La semaine prochaine, pour la dernière Pop etc., rendez-vous avec la section rythmique du groupe Talking Heads et les fondateurs de Tom Tom Club, Chris France et Tina Weymouth. Je vous retrouve demain soir à 20h en direct du Festival des Nuits de Champagne à Troyes. Et juste après les infos, la lune a des oreilles avec Muriel Pérez. Très belle nuit sur France Inter.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.